ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est l'histoire d'une équipe de brunes et de blondes qui vont voir un match de foot. Pour cela, donc, ils louent un bus anglais à étage, donc, et ils se répartissent ainsi. Donc les brunes donc seront au rez-de-chaussée et les blondes seront au premier étage. Donc la route débute, donc l'ambiance monte un peu, les brunes chantent, font la fête, dansent. Et il y en a une des brunes à un moment qui dit c'est bizarre parce qu'on n'entend pas les blondes. Donc on va aller voir quand même qu'est-ce qu'ils ont. Donc ils montent au premier étage et là effectivement ils trouvent donc les blondes toutes blanches, crispées sur leur fauteuil, qui bougent pas. Alors la brune dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Faut faire la fête, faut danser, faut chanter. Et il y a une des blondes qui dit ouais t'es gentil, nous on n'a même pas de chauffeur.
Aïe, oui, aïe, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, honte, tu me fais mal. Douleur, injure, virilité, coup, bagarre, séquelles, violence, violence morale, physique et sexuelle. Traumatisme, au secours, à l'aide, secret, blessure, sadomaso, tu l'as bien cherché. Main courante, SOS homme en danger, être un homme libéré. Tu sais que c'est pas si facile. Justice, soins, prison, tabou, amour, vache. Vous l'avez bien compris. Vous l'avez compris, les abeilles butinent des fleurs dont les pistilles volent au vent. Mais nous, on s'en fout. On va plutôt parler d'un sujet peu souvent évoqué. Tabou, assez peu tuité, la violence faite aux hommes. Si les femmes restent de loin les premières victimes de violences conjugales, le cas des hommes battus ou maltraités est moins exceptionnel qu'on pourrait le croire. 149 000 hommes ont été victimes de violences au sein de leur couple en 2012 et 2013. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui s'appuie l'enquête de victimisation, cadre de vie et sécurité. 398 000 sur la même période. Les femmes étaient toutefois bien plus nombreuses à se déclarer victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint et de leur ex-conjoint. Cette violence, plus taboue, est mal représentée par les statistiques. Les hommes en parlent moins, le déclarent moins. Quand 10 femmes sur 100 déposent plainte suite aux violences qu'elles ont subies, seuls 3 hommes sur 100 osent se tourner vers la justice, toujours selon l'ONDRP. Pour répondre à nos questions sur ce sujet, nous recevons M. Pascal Auvet, psychologue.
Au sommet aujourd'hui, un micro-trottoir du beurre noir. Les tests qui frappent les esprits issus de l'atelier du point des mots. Une interview coup de poing. Une cuisine qui laisse des traces. Un avalo sans totem ni tabou. Des musiques percutantes. Une minute du pôle traumatisante. Une rubrique à bras pleine de dangers dont ne ressort pas idem. Pour vous servir aujourd'hui, Chantal, Stéphane, Didier, Mamadou, Fanny, Sandrine, Timothée et Vaïtiaré.
Le texte d'aujourd'hui est un texte de Grégory. Bienvenue dans le mystère de l'ambivalence aucune honte à avoir le fait de recevoir des coups suivis d'une hospitalisation ne consiste pas à être, il faut se reprendre et déposer plainte pour que cela ne soit pas reproduit plus que jamais.
Écoutez Amour Échec par le groupe Violence Conjugale. Alors, pour évoquer les violences conjugales, mais cette fois faites aux hommes, un sujet moins connu, moins abordé, nous recevons aujourd'hui Pascal Auvet, qui est psychologue à Évreux. Pascal Auvet, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors, je vais d'abord demander de... Pardon, je suis un peu malade. Dans quel cadre exercez-vous ? Demandez si vous êtes en libéral ou...
Donc actuellement, donc je suis en libéral depuis environ maintenant 17 ans. Avant, j'ai travaillé donc au centre hospitalier spécialisé donc de Navarre à Évreux. Et puis donc j'exerce maintenant donc en libéral après plusieurs expériences, je dirais, d'installations diverses et variées. Et aujourd'hui donc je suis donc au centre médical de Netreville, donc dans le cabinet de Jean-Paul Benmoub, médecin généraliste. Et je viens de m'installer du coup maintenant au premier étage. Avec Julien Lebourg qui fait de l'hypnose ericksonienne. Du coup, je vois donc des personnes en tant que psychologue et thérapeute. en individuel, en famille aussi, avec parfois une marionnette qui s'appelle Arthur. Donc ça permet de médiatiser un petit peu la relation, c'est plus facile pour les enfants. J'ai remarqué après coup que c'était aussi très amusant pour les grands. Et puis, du coup, je me suis aussi spécialisé dans l'approche des thérapies de couple, avoir fait des formations donc, au centre familial donc, Monceau, qui était spécialisé sur l'approche des conduites addictives, et fait une formation donc, au CECOF, donc, il y a maintenant quelques années. Voilà un petit peu pour la présentation du professionnel.
Bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour.
Moi, ma question, c'est, je veux savoir dans quelle définition peut-on donner aux violences conjugales?
Alors, la définition, je dirais, la plus simple qu'on pourrait donner aux violences conjugales, sachant qu'on est dans une thématique un petit peu spécifique, orientée sur la notion de victime et de violences faites aux hommes. On est donc sur, un plan un peu particulier qui va orienter en tout cas la notion de victime ou la notion de victimisation dans un contexte conjugal. La définition, je dirais, qu'on pourrait donner, que ça soit une violence, faite aux hommes ou une violence faite aux femmes, c'est que il y a une, on va dire ça comme ça très simplement, je reprendrai la définition proposée par Blandine Kergel, qui est aussi psychologue. On pourrait dire que c'est la force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique et psychique dans un but non conscient de domination et de contrôle, qui va engendrer donc chez la personne qu'on appelle la victime la sidération et la destruction de la part d'humanité, mais on va dire des deux protagonistes, autant de l'agresseur que de la victime.
Donc ce serait une question de domination, les violences conjugales?
C'est effectivement un rapport de force où ça participe beaucoup du malentendu, je dirais, dans un premier temps. Ça part souvent de petites phrases, je dirais, tu ne me comprends pas, tu ne fais pas attention à moi, je t'ai déjà dit 15 000 fois qu'il ne fallait pas faire ceci, qu'il ne fallait pas faire cela. Je dirais que sur certains aspects, il faut distinguer la violence, je dirais, de certaines agressions, de certains malentendus. C'est une question de niveau, c'est une question de proportion, en fait. Donc ça va, je dirais, du malentendu le plus simple à la répétition de schèmes relationnels qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle en thérapie familiale l'escalade symétrique. Et ensuite, on rentre dans des niveaux qui, en fait, vont dépendre aussi beaucoup de la structuration psychologique de chacun des deux protagonistes, ce qui peut effectivement aboutir parfois à des violences, on va dire, assez considérables, qui peuvent aboutir au crime, mais avant ça, je dirais, aux pathologies des deux individus. Voilà, donc la plupart des gens, en général, arrivent à trouver des compromis dans des périodes, je dirais, relativement simples du quotidien. Malheureusement, parfois, ça peut arriver qu'il y ait des processus de victimisation ou des processus de somatisation aussi. C'est des choses dont on pourra parler. Il n'y a pas simplement que les violences physiques, il peut y avoir aussi des violences par les mots. C'est ce que me disait Ethan, âgé de 15 ans, que j'ai vu cette semaine. Il y a des mots qui font beaucoup plus mal que certains coups.
À partir de quand peut-on parler de violence psychologique?
Alors, à partir de quand, je dirais que c'est plutôt comment. C'est-à-dire que à un moment donné, je pense que certains individus sont débordés. Notamment les hommes, en tout cas, peuvent être débordés, en tout cas par des interactions répétitives qui font que du coup ils sont dépassés. Nous sommes confrontés effectivement toujours dans cette conception de l'évolution de l'humanité. La violence, je dirais entre guillemets, ou les agressions, ça peut faire partie aussi de la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc chacun est convoqué un petit peu, soit dans sa relation de couple, mais aussi dans sa relation à lui-même, devant le fait de devoir s'adapter un peu aux aléas de la vie quotidienne, aux changements, l'adaptation, voilà, les agressions. On peut être agressé par par un phénomène météorologique, etc. Ça ne met pas toujours forcément en péril la vie d'autrui ou la vie de soi-même. Là encore, je dirais que chacun a ses limites. Et c'est dès l'instant où, du coup, on a l'impression que les choses nous débordent, qu'à ce moment-là, le langage ne suffit plus et on commence à être dans des défenses, on va dire, qu'on retrouve chez les enfants de manière naturelle, qui sont des défenses comportementales. L'homme, par exemple, il a tendance beaucoup plus, si vous voulez, à fuir le conflit, parce que l'homme est structuré, je dirais, par le fait qu'il est plus porté sur l'action et la solution, alors que la femme, elle, elle est beaucoup plus portée sur la relation. C'est-à-dire que la femme, d'une certaine manière, peut faire trois choses en même temps, là où l'homme peut faire qu'une seule chose à la fois. On le voit par exemple d'une manière très simple par rapport à l'art et la manière, soit de faire le ménage, soit de faire faire les leçons aux enfants. Une femme par exemple va faire les leçons aux enfants, elle va faire avec les enfants les leçons. Le papa ou l'homme, il va dire « Est-ce que tu as fait tes leçons ?» Le garçon, il va dire « Oui, j'ai fait mes leçons. » Madame, elle rentre. « Tu as fait faire les leçons aux enfants ?»« Oui, oui, il m'a dit qu'il les avait fait. » La mère, elle va voir le petit, elle dit « T'as fait tes leçons ?» Non. Donc des fois, ça part sur des petites choses toutes simples comme ça. Et la plupart des couples, hein, je dirais, trouvent des ressources, mais en fonction, je dirais, de leur modèle d'appartenance d'origine. Ça, c'est l'approche systémique qui nous enseigne ça, c'est-à-dire qu'on va faire une relation d'attachement en fonction du modèle dans lequel on a grandi. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va répéter la même chose, mais on va beaucoup s'en inspirer d'une manière souvent inconsciente. Et c'est un peu parfois la répétition des modèles, surtout quand les enfants arrivent. Hein, parce que quand les enfants ne sont pas là, on peut toujours se promettre de ceci, de cela. Mais quand les enfants arrivent, eh bien, il y a une courroie de transmission qui fait que du coup la psychogénéalogie est convoquée, je dirais, au plus simple endroit de comment apprendre aux enfants à se laver les mains, c'est quoi les valeurs qu'on a envie de transmettre. Et là, généralement, il y a des différences entre ce qu'une femme veut enseigner aux enfants et ce que l'homme veut enseigner aux enfants. Donc c'est autant l'affaire, je dirais, des modèles familiaux que l'affaire de la culture dans laquelle on grandit. Il y a des cultures, par exemple, où les problèmes sont extrêmement différents. La place des femmes n'est pas tout à fait la même, la place des hommes n'est pas tout à fait la même. Donc c'est... voilà, c'est-à-dire que la violence, dans certaines sociétés, je dirais, comme la nôtre, les sociétés dites occidentales, de l'homme blanc bien évolué, malheureusement, je dirais que c'est pas le meilleur modèle à suivre parce qu'on désacralise beaucoup de choses. Donc sur le fait religieux ou sur le fait d'autre chose. Et je crois qu'il faudrait revenir un petit peu au sacré pour donner peut-être, non pas un exemple, mais de cultiver la responsabilité de chacun, des petits, dès la maternelle, dans des écoles qui permettent aux enfants, en tout cas, d'apprendre à être responsables d'eux-mêmes, plutôt que de suivre les règles, le protocole, l'éducation surveillée, les leçons, les devoirs. Non, c'est. Je crois qu'il y a d'autres modèles à proposer.
Alors, je vais vous proposer d'écouter un micro-trottoir, puisqu'on va essayer maintenant de comprendre les difficultés qu'il peut y avoir de parler, justement, pour les victimes de ces violences.
Pourquoi est-ce compliqué de parler des violences conjugales?
C'est un peu tabou.
Ça reste tabou, oui, encore maintenant. Ça y était déjà dans le temps, mais encore aujourd'hui, c'est encore tabou.
C'est un tabou.
Peut-être que le fait d'être maintenu par le couple, on n'ose pas dire aller porter plainte ou quoi, vu que c'est. Souvent, il y a l'amour au fond quand même, mais il y a toujours. C'est ça qui retient, je pense, le fait de ne pas en parler.
Bah, c'est un tabou, oui. On n'en parle pas, enfin on en parle peu.
Je sais pas.
Je pense qu'il y en a, ils ont honte, par peur d'être jugés aussi.
Parce qu'on se sent honteux, sûrement, et on n'a pas toujours la possibilité de s'échapper comme on veut, je suppose.
Bah, en fait, c'est un peu tabou. Je pense que c'est un peu tabou, et voilà quoi.
Moi, je trouve pas ça compliqué, il faut le faire. Dans le temps, c'était compliqué, mais à notre époque, il faut le faire. Il y a beaucoup d'aide maintenant, il y a beaucoup d'associations, donc il faut le faire.
Bah, quand il y en a, oui, ça, je pense que c'est compliqué. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas confronté au problème.
Alors, je vous demandais si vous avez des réactions pardon, si, sur ce qu'on vient d'écouter.
Oui, alors effectivement, bon, le tabou, c'est un mot, je dirais, un petit peu sociologique et psychologique. C'est vrai que sur la question de l'intimité, par exemple, on sait que, d'une certaine manière, en règle générale, en dehors des violences, hein, je prends les choses un peu de manière périphérique, les femmes sont beaucoup plus habiles, je dirais, que les hommes, d'ordinaire, pour parler de l'intimité. Ça, c'est sur le genre, on va dire, naturel. Je mets de côté les cas particuliers de certaines familles où c'est difficile de devenir une femme. Parce que être une femme, c'est quelque chose qui s'apprend, comme de devenir un homme, ça s'apprend. On ne naît pas homme, on peut être du sexe masculin, ça ne fait pas de nous des hommes. Je veux dire, ce qui va faire de nous des hommes, c'est tout justement le fait de baigner dans une culture familiale de responsabilité, de responsabilisation. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur deux choses. C'est-à-dire, effectivement, la honte, ça, c'est quelque chose de très important qui rejoint le côté un peu tabou des choses. C'est vrai que pour les hommes, c'est ce que dit, par exemple, dans son témoignage tout à fait poignant, Maxime Gagé, qui, lui, a été, on va dire, pour faire simple, victime de violences, de coups et blessures, avec 100 jours d'ITT. Et, il a publié un livre dont je peux donner d'ailleurs la référence au passage.
Oui, parce qu'on avait un peu, pendant nos préparations, cherché si on avait des exemples de gens célèbres ou connus. Et ben non, on n'a pas trouvé, honnêtement.
Alors, écoutez, moi, je vous conseille, alors soit vous allez voir sur Internet, soit vous achetez son livre. Ça s'intitule donc « Ma compagne, mon bourreau » de Maxime Gagé, et c'est aux éditions Michalon. Il y a aussi des séquences sur YouTube tout à fait poignantes, voilà, qui montrent bien que, en tout cas pour cet homme, comme pour d'autres, on ne va pas dire aux flics « ma femme me bat », etc. Et lui expliquait très bien, voilà... ça m'a sidéré, on vivait dans 30 mètres carrés avec les enfants, et d'un seul coup, cette femme-là, que j'avais de l'amour, j'étais attiré par son sourire, et puis, et voilà, d'un seul coup, elle a pété les plombs, alors des fois, il y a de l'alcool, des fois, il y a des choses comme ça, et j'étais roué de coups, et je n'allais pas dire devant les flics, ma femme m'a battu, il ne m'aurait pas cru. Donc, c'est aussi, si vous voulez... Le principe de base aussi d'une grande violence, mais ça, je dirais que l'agresseur n'y est pas pour grand-chose, c'est ce qu'on appelle le processus de sidération. Je suis sidéré, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Et le processus de sidération, je crois qu'il est incontournable pour comprendre la violence, avec les conséquences que ça peut avoir de repli, ou finalement finir par perdre complètement son latin, de plus savoir où on habite, et c'est une escalade qui conduit parfois... à l'alcool ou au suicide, quand c'est pas la maladie somatique comme certaines formes de cancer, etc. Donc la sidération, c'est vraiment je suis sidéré, je n'arrive plus à penser. On voit ça dans les processus d'attentats, on voit ça dans les entreprises aujourd'hui en France et dans le monde occidental, on est sidéré par le harcèlement moral.
Est-ce que les hommes parlent vraiment moins facilement que les femmes ? Puisque bon, j'imagine qu'une femme n'en parle pas facilement de toutes non plus, des violences conjugales.
Si vous voulez, moi dans ma pratique, j'ai jamais vu une personne qui venait pour ce motif. De la même manière que les familles vont venir pour un motif, notre enfant va pas bien ou ceci, cela, etc. Mais l'idée c'est on va creuser, on essaye d'aller voir un petit peu plus loin, justement pour comprendre les choses. Mais moi, j'ai jamais vu dans ma pratique quelqu'un qui venait exclusivement pour dire « voilà, ma femme me bat » ou « je supporte pas », etc. Ils viennent parce qu'ils sont déprimés, ils viennent parce qu'éventuellement on leur a conseillé, ils viennent parce qu'ils sont au bout du rouleau ou qu'ils sont déprimés. Et c'est ensuite que je dirais qu'on commence à retravailler en partie cette souffrance morale dont ils font l'objet, à côté de leur regard qui consiste à dire bah oui, j'ai cautionné, je pensais que ça allait s'arranger, j'imaginais que on n'avait plus d'intimité. Je me suis mis à boire, madame, du coup, depuis qu'elle voit sa nouvelle copine, enfin, etc., si vous voulez. Mais ils viennent jamais en première intention, en tout cas, pour parler de ça.
Et alors, ce serait plus facile, enfin, je sais pas s'il y a une règle, mais pour un... Là, on parle d'hommes victimes de violence, est-ce que c'est plus facile seul ou en couple, d'en parler en couple pour...
Alors ça, c'est effectivement une question tout à fait pertinente, c'est-à-dire que quand les gens viennent en couple, par exemple, on est dans une certaine forme de violence, là aussi, qui participe du malentendu, et là, il y a une dynamique, je dirais, qui est tout à fait intéressante, qu'on voit bien que c'est pas tout blanc ou tout noir, et que, par exemple... par exemple, il y a certaines... je vais vous prendre un exemple. D'une femme, par exemple, qui vient avec son mari pour, entre guillemets, une thérapie de couple, parce que les gens ne connaissent pas forcément, donc des fois, ils viennent en couple pour faire une séance, des fois, ils viennent et on s'aperçoit que c'est vraiment dans un cadre thérapeutique. Mais voilà, c'est-à-dire que si on prend un exemple concret, ça peut être... Voilà, un couple qu'on peut rencontrer, c'est un exemple d'une femme qui se plaint que son mari n'est jamais attentif à elle. Donc elle va se plaindre, elle va utiliser parfois l'humiliation, elle va utiliser souvent la plainte, la déception. Tu me comprends pas, vraiment je vois plus quoi faire, j'ai tout essayé, j'ai vraiment l'impression que du coup tu le fais exprès. Donc il y a l'interprétation que la femme peut avoir du comportement de son mari. Et quand on écoute le mari, son intention... n'est pas forcément de faire du mal. Seulement, il va réagir par rapport, je dirais, à ce que la femme lui dit. Donc, c'est par exemple, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire, bon, bah, écoute, ma chérie, j'ai peut-être manqué d'attention, etc. Mais l'autre jour, par exemple, quand je t'ai offert des fleurs, tu m'as dit, je te vois venir, salopard, tu veux te racheter. C'est toujours la même chose, il n'y a que le sexe qui compte pour toi, tes fleurs j'en veux pas, tu peux les garder pour une autre. Et du coup, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une incompréhension totale, je dirais, dans la communication, qui fait que chacun va rester campé donc, sur sa plainte ou sa difficulté à vivre les choses.
Alors, on arrive au terme de notre interview. Donc, en dernière question, j'ai envie de demander... comment on pourrait un peu faire évoluer les mentalités, puisqu'on parlait pas mal de honte, ou comment on pourrait faire que les gens arrivent à plus en parler, les victimes du moins de violence.
Alors comment faire évoluer les mentalités, ça c'est un sacré programme politique, je crois qu'il faudrait un président philosophe, ça arrangerait bien nos affaires, mais bon. Je crois que chacun est responsable aussi devant autrui de lui-même. Il y a des possibilités de pouvoir verbaliser les choses. Bon, il y a des associations, par exemple, quand on est dans ce cas de figure, même si on a honte, je crois que c'est important de passer le cap. Hein. Un psychologue ou une psychologue. Des fois, entre hommes, c'est vrai, c'est plus facile de discuter de ces choses-là. Donc, il faut que les gens ils fassent un petit peu leur chemin aussi, qu'ils se prennent en main. C'est pas toujours évident, mais il y a bon nombre de thérapeutes, en France en tout cas, ou de psychologues, qui peuvent aider les hommes en tout cas à se défaire de certaines relations, je dirais, qui peuvent être néfastes. Mais même chose pour les femmes. Mais pour les femmes, encore une fois, c'est plus facile d'aller consulter.
Alors... je vous remercie.
Je peux terminer par Socrate. Hein. Je vous laisse faire une petite blague. Après tout, on a commencé par des blagues. Alors, je dirais simplement, c'est juste un petit clin d'œil. Hein. C'est vraiment comme ça. Socrate disait, dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur un bon mari, une bonne épouse, ben, vous serez heureux. Si vous tombez sur un mauvais époux ou une mauvaise épouse, ben, vous deviendrez philosophe. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Je rappelle que nous recevions Pascal Auvé, qui est psychologue donc à Nétreville, au cabinet médical de Nétreville. Merci.
Merci, bonne journée.
J'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, de belles jaunes avec l'air et bleu. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai chiffé, et j'ai grincé d'un nerf farouche. Fais-moi mal,
Johnny, Johnny, Johnny.
J'ai pas une mouche. L'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'insultais sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton char. Tu me rends pour un peu mieux. Je vais t'enfiler de la scène. Tu me fais mal. Mais pas avec les pieds. L'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal. Il lui a fait mal. Il lui a fait mal. Il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier en laissant une épaule de mise.
Pour le relou de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses.
Et plus jamais je ne dirai. Fais-moi mal. Envoie-moi au ciel. J'aime l'amour qui fait boum. Ah, ça fait mal.
Nous venons d'écouter une version punk de Fais-moi mal Johnny par Opium du Peuple.
Cet objet a une journée très chargée. Dans la mesure où du matin jusqu'au soir, il sert à recueillir les ordures. En effet, cet objet permet aux personnes qui se trouve sur le lieu de rendre leur environnement propre et sain afin d'éviter les maladies. Cet objet est permanent, il travaille toute l'année sans repos, il est souvent très sale.
Bien, aujourd'hui nous allons faire une recette, les pancakes faciles et rapides. Comme ingrédient, donc il nous faut 4 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre blanc, 4 cuillères à soupe d'huile ou de beurre fondu, 600 g de farine, 4 bonnes cuillères à café de levure et 800 ml de lait. Le temps de cuisson est de la préparation de 15 minutes. Alors, en premier, vous allez battre grossièrement l'œuf et le sucre dans un saladier. Je pense qu'ils disent l'œuf, mais ce sont les œufs. Alors ensuite, il faut donc ajouter le beurre fondu ou l'huile. Ensuite, il faut mélanger à part la farine et la levure, puis en mélanger la moitié avec la préparation. 600 g de farine. Donc c'est ça, donc vous mélangez donc à part. Délayez progressivement avec le lait. Donc on mélange la farine avec les œufs, délayer progressivement avec le lait tout en ajoutant l'autre moitié de la farine. Il faut l'ajouter petit à petit pour que ça évite les grumeaux. Alors, il faut préciser qu'aucun temps de repos n'est nécessaire. Voilà, c'est bien homogène. Il n'y a pas de grumeaux. Bien. Ouais. Progressivement. Ensuite, il faudra à l'aide d'une petite touche ou d'une grosse cuillère déposer donc des ronds sur la poêle. Simplement le temps qu'il faut pour chauffer votre poêle. Alors lorsque les bulles apparaissent et éclatent, retournez donc le pancake. Et quand on l'a retourné, il faudra le laisser une minute. Note de l'auteur. Il faut déguster les pancakes assez rapidement car une fois refroidis, ils sont un peu moins goûteux. Ils seront délicieux avec un filet de sirop d'érable, de la confiture de framboise ou encore un peu de sucre et du jus de citron mélangé vite. Alors je répète les ingrédients. 4 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre blanc, 4 cuillères à soupe d'huile ou de beurre fondu, 600 g de farine, une bonne cuillère à café de levure et 800 ml de lait.
Chienne de vie. Il y a les droits de l'homme qui marchent aussi pour les femmes. Il y a les droits de l'enfant, les droits des animaux. Un jour, c'est sûr, il y aura les droits des plantes, des arbres et autres cucurbitacées. Et les droits des objets, c'est pour quand alors? On ferait la moitié de ce qu'on fait à un caniche et on se retrouverait à la haie directe. Mais comme je suis qu'une cafetière, ben non, pas de problème, c'est normal. On commence par me mettre les doigts dans une prise électrique. Vous croyez quoi? Parce que je suis un objet, l'électricité, ça me fait pas mal? Vous rigolez? L'électricité, c'est une grosse vicieuse, une sadique, une psychopathe. Elle aime faire mal à tout ce qu'elle touche. Ensuite, on fait bouillir de l'eau à l'intérieur de moi. Bah, essayez de faire bouillir un truc dans votre estomac et revenez-en m'en parler après si vous pouvez encore. Tout ça pour faire du café. Et en plus, bah, moi le café, je déteste ça, ça m'empêche de dormir. Vous êtes complètement tarés les humains. Vous fabriquez des machines pour les torturer. Eh ben oui, ça vous suffit plus de torturer tous ceux que vous jugez différents de vous. Mais rira bien qui rira le dernier. Vous êtes tellement mauvais que vous êtes en train de développer l'intelligence artificielle. Eh oui, ça vous suffit déjà plus de torturer des objets idiots comme moi. Vous voulez vous en prendre à des objets intelligents. Mais si une simple cafetière a compris à quel point vous êtes mauvais, alors une machine qui sera vite plus intelligente que vous mettra pas longtemps à se débarrasser des nuisibles que vous êtes. Et alors ce sera l'heure de la revanche des objets. Nous régnerons sur le monde et vous réduirons en esclavage. Et on inventera des tortures que vous pouvez même pas imaginer. Vengeance !
Les aventures du narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, alors c'est parti. Elle a encore rêvé de moi, si fort que les draps s'en souviennent. Mais ce qui suit n'est pas un rêve, ou tout au moins pas éveillé ni endormi. À mi-chemin entre les frontières du réel et de l'irréel, au cours d'une mémorable partie de marelle piégée par l'espiègle taquin coquin malin Kim Jong-dos, Moulmou a disparu sous la glace. Le reste de la fine équipe est sucre glacé d'effroi alors qu'arrivent les pompiers.
Chef, 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 notre échelle n'est pas waterproof. Elle flotte. Nous ne pouvons pas intervenir.
Messieurs, dames et extraterrestres, pas de panique, nous gérons la situation. Dans moins de 30 minutes, nos collègues de la brigade fluviale seront là avec les échelles submersibles.
Chef, 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 il n'y a pas de réseau, ni de connexion, pas de 4G, pas de fibre et plus de batterie. De plus, nous allons être à court de café.
On va pas tourner doux autour du pot dur, qui même doux me suivent dur.
Face à l'incompétence des pompiers décaféinés, Doudur entraîne toute la fine équipe avec lui dans un merveilleux original, tel des moutons lemming suivant Lemmingway.
Oula, oula, oula. On coule et on arrive à respirer et parler. Sous l'eau, c'est cool, mais on coule.
Mon rimmel est pas waterproof. Mon col coule.
On se croirait doux dans une cuvette de toilette dure.
Il fait de plus en plus tiède. Laissons-nous bercer par le cliquetis des courants sous-marins.
Accrochez-vous doux, ça accélère dur.
On y va à la chevelule. Un siphon, fond, fond, trois petits tours et...
Vous l'avez entendu, la fine équipe est aspirée par un siphon car Kim a enlevé la bombe de la baie noire ou rouge. Il se retrouve dans un paysage amazonien après un atterrissage en douceur dans une végétation luxuriante. Bref, leurs petites fesses se sont amorties par les mousses et les lichens, plus communément appelés en latin lichen. C'est nickel.
Où est-on doux? C'est répugnant dur.
C'est quoi ce zouk? Ces gens qui font la fête au lieu de travailler. On dirait des coucous, l'ermite. J'en ai plus vu depuis la frontière d'El Paso et c'est pas une fake news.
Crunch, crunch, crunch. C'est génial ce truc. Des arbres guimauves, des maisons en chocolat, des fleurs en sucre. Et il pleut du Nestlé Milo Banania au bon matin.
Par contre, les gens ont des drôles de tronches. On se croirait au bal masqué.
Oui, oui.
Je crois pas que ce soit qu'il soit déguisé. C'est superbe. C'est tout mes héros d'enfance. Des effets, des nains, des orques de terre, des trolls, des sorciers, des magiciens. C'est féerique comme dans un rêve éveillé.
Je suspice de tout, de même un petit peu. Attendons un peu avant de nous abandonner à l'émerveillement. Même et surtout si c'est tentant. Je ressens des ondes négatives derrière tout ce beau décor. Papounet, tu devrais pas tout ranger comme ça. Tu ne fais rien que des bêtises quand je suis là. C'est peut-être du poison. En tout cas, c'est du cholestérol.
Garde ton flair doux pour flairer dur. Peux-tu flairer mou doux, mon ami Moulmou dur?
Tout d'abord, un cri de guerre.
Kouroukoukou, kouroukoukou, kouroukoukou doux, kouroukoukou dur.
Sniff, sniff, sniff. Je sens un grand danger avec une chaussure noire. Moulmou est entravé, attaché, enchaîné, pylorisé. À pylori, ça se présente mal, genre par le siège polyorthétique.
La fine équipe débarque en fait lors du jour des fêtes nationales de la Confédération gondouanaise. Ils assistent à ce qui semble être un défilé militaro-carnavalesque, au menu, ogive nucléaire, costume en kevlar, corso fleuri et danse folklorique.
C'est de toute beauté, à la fois la rigueur professionnelle et la poésie obligatoire. C'est magnifique. Ce sont des chars d'assaut fleuris sur lesquels dansent des petits rats en treillis.
Je me demande si le canon canonne des fleurs, des bonbons ou des grenades à fragmentation.
En tout cas, les trois options me laissent rêver.
Regardez doux, Moulmou dur, il est ficelé doux sur le capot du char dur, les crétins doux, je vais les défoncer dur.
Vous le voyez, vous qui écoutez, Moulmou a tout de la victime sacrificielle, tête de turc, bouc émissaire, souffre-douleur, tête à claque sacrificielle. Quand Doudur voit la tête de Moulmou, il a envie d'envahir la Confédération gondouanaise. Mais sera-t-il suivi du reste de l'équipe? Ont-ils suffisamment de moyens pour attaquer la Confédération? Le défilé militaro-carnavalesque est-il adoubé par Jack Lang? Pour le savoir, rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode du Narvalo.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Si on vous dit homme battu, quelle réaction avez-vous?
C'est possible, oui. Il doit y avoir énormément d'hommes battus, je pense. Oui. Peut-être moins que les femmes, mais il doit y en avoir.
L'étonnement.
Homme battu? Ah oui, non, pour l'instant, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça, mais il en faut. Il y a bien des femmes battues.
Homme battu?
Oui.
Ça ne doit pas se faire.
Étonnant, mais bon, ça existe, hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont battues.
Bah, je sais pas, je suis pas au courant de trucs comme ça.
Donc c'est pas normal.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Pourquoi?
Parce que c'est pas normal. Hein, j'en vois pour l'intérêt.
C'est pas mal. Oui, oui, je m'en doute, mais ouais, oui, ça doit exister.
Oui. Ça existe.
À votre avis, les hommes sont-ils plus violents que les femmes?
Bon, je pense oui, quand même. Les hommes ont plus de force quand même que les femmes ou certaines, donc je pense qu'ils doivent plus avoir d'agressivité chez les hommes que chez les femmes.
Je pense oui.
Ce serait pour quelle...
Une question de force.
Oh, je pense oui. Je pense, oui.
On a plus d'impulsivité.
C'est une généralité. Après, il y a aussi des femmes qui sont violentes. Franchement, je suis mitigée sur ce débat-là.
Ouais, sûrement.
Certains.
Plus violent, je sais pas, plus fort, oui.
Oui, quand même, dans l'ensemble, oui.
Et pourquoi?
C'est plutôt les femmes battues plus souvent que les hommes, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de caractère et qui arrivent à battre leurs hommes. Donc, c'est aussi malheureux les uns que pour les autres.
Et à votre avis, pourquoi les hommes battus, justement, en parlent moins que les femmes battues?
Peut-être une honte au fond des hommes, peut-être. Pour pas mal, je pense que ça doit être une honte de se faire battre par sa femme, donc ils n'osent pas en parler. Ah,
parce qu'il y a toujours le... Voilà, plus fier.
Et plus fier, et je pense qu'il bon, a plus de mal
à l'accepter. Enfin, à accepter. Au niveau de l'entourage, c'est plus dur à dire, c'est peut-être plus dur à dénoncer.
Par pudeur?
Parce que ça fait bizarre de se faire battre par sa femme. Parce que c'est une honte.
Par honte, je pense aussi, plus par fierté, ego, et puis voilà, un homme c'est fort, c'est... je sais pas, je pense, après c'est mon ressenti personnel. Hein.
Parce que peut-être un petit sentiment de honte ou peut-être quelque chose comme ça.
Parce qu'ils n'osent pas en parler encore moins que les femmes, pour eux c'est une honte de se faire battre par une femme.
À cause de la honte, certainement.
Parce qu'ils ont honte, je pense.
Sa vie fut un échec. Il ne marchait que quand on le frappait, autant dire par à-coups. Enfin, il était un mystère, sous la honte certes, mais un mystère total. Et sa vie n'était qu'ambivalence. Il frappait, il était frappé. Et tout cela lui faisait peine. Il était harcelé, où cela le mènera-t-il? En sang, en chancelon, cela irait-il jusqu'à une hospitalisation? Conclusion, Euphème, quand tu nous bats.
Il est temps pour nous de rendre l'antenne, si ces hommes sont d'accord, et oui, nous ne sommes pas libres de nos mouvements.
Nous remercions encore M. Pascal Auvé, psychologue, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et pour ses conseils pratiques. Nous remercions également l'équipe de Zone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de Principe Actif, avec JC, le lutteur acharné, Damien, le catcheur masqué et Timothée, le boxeur boxé. Nous vous donnons rendez-vous dès jeudi 22 février à 12h30 pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez-nous en podcast ou en balado-diffusion sur la page de Zone Libre du site principactif.net.